l'art et de la vie, une émission créée par Fania Pérez, conçue et présentée par Francine Chapiro.
Bonsoir. Nous allons ce soir réparer un énorme oubli en rendant hommage à une femme qui a été la première galériste en France et dans le monde. Vous me corrigerez, Marianne Lemorvan, qui est mon invitée dans ce studio, si je me trompe.
Bonsoir. C'était en fait la première galeriste d'art contemporain.
Oui, la première galeriste. Vous allez expliquer pourquoi le terme de marchand d'art s'est transformé à l'époque en celui de galériste. Et nous avons en ligne Marianne Lemorvan, j'ai fini de vous présenter, qui est historienne, qui est écrivaine et commissaire d'exposition indépendante. Vous allez nous parler de tous ces travaux et vous travaillez notamment et surtout essentiellement depuis 6 ans sur cette extraordinaire figure féminine dans le monde de l'art qui s'appelait Berthe Veil.
La petite merveille, comme
la
vous l'avez
petite
surnommée.
Merveille, et vous avez écrit un livre où vous parlez de la petite galériste des grands artistes.
C'est bien ça.
Puisque là, entre autres, tous les grands artistes sont passés par chez elle, depuis Picasso, Modigliani, enfin on développera cela. Et nous avons en ligne Françoise Job, qui est docteur en histoire et qui est spécialiste de l'histoire des Juifs de Lorraine et qui se trouve être surtout la petite nièce de Berthe Veil. Alors bonsoir Françoise Job.
Bonsoir Francine.
Et donc racontez-nous comment vous avez, mais très très rapidement parce que nous sommes pressés par le temps, qu'est-ce qui vous a, dans le cadre de vos recherches, donné l'idée de vous pencher sur la biographie et l'histoire de Berthe Veil?
Berthe Veil, j'en avais beaucoup entendu parler par mon père qui était son neveu, mais d'une façon plutôt péjorative, parce que dans ce milieu bourgeois, on avait très mal accepté qu'une femme se commette dans le milieu des artistes qui avait très mauvaise réputation. Et un jour, avec une curiosité d'historien, j'ai voulu en savoir plus sur Berthe Veil, qui à son décès avait laissé des archives et quelques gravures, quelques toiles à mon père. Et là, j'ai découvert un personnage absolument remarquable, contrairement à ce qu'on en disait. La famille de Berthe Veil, donc la mienne, était originaire d'Alsace. C'était des gens extrêmement modestes qui ont tenté leur chance à Paris après la guerre de 70, qui ont vivoté et de sorte que leur fille, arrivée à l'âge de l'adolescence, ont dû travailler. Et Berthe Veil a été mise en apprentissage chez un cousin qui s'appelait Salvatore Mayer et qui était un galériste très particulier, absolument remarquable, et tout le monde connu allait chez lui se fournir et surtout couser avec lui. Il avait des connaissances remarquables. Alors voilà donc les débuts de Berthe Veil.
Donc Berthe Veil a commencé sa carrière en apprentissage chez un maître, pour ainsi dire, qui avait une ouverture d'esprit remarquable. Puisque...
Et des connaissances artistiques absolument particulières et tout à fait reconnues dans le milieu de l'art à Paris.
Alors ensuite, vous avez été tenté de faire un travail sur elle, mais vous avez trouvé... il fallait du temps devant vous et il se trouve que vous avez été contactée par Marianne Lemorvan. Alors comment oui, s'est faite cette rencontre?
Cette rencontre s'est faite d'une façon fortuite. Marianne m'a contactée en demandant mon avis, est-ce que c'était valable de faire un travail sur Berthe Veil. Et d'enthousiasme, je lui ai dit oui. je lui explique, elle savait très peu de choses sur Berthe Weil, sinon que c'était la première galeriste féminine d'art contemporain, qu'elle avait vraiment lancé une galerie hors norme à Paris, qu'elle avait eu le courage de la garder pendant quelques dizaines d'années. Et je lui ai dit, mais naturellement, si j'avais été plus jeune, si j'avais eu le temps, parce que j'étais absorbée par mes propres recherches, j'aurais travaillé sur Berthe Weil, c'est un sujet magnifique, et je lui ai donné toutes les archives familiales que je pouvais avoir et tous les renseignements dont je disposais. Et alors Marianne a fait, dans le milieu artistique à Paris, des recherches absolument sensationnelles. D'où le résultat qui donnera la première exposition sur Berthe Weil à New York. Marianne vous en dira davantage.
Voilà, alors nous allons lui donner la parole parce que c'est plus qu'une passion, c'est un véritable, je crois qu'elle vit avec cette remarquable femme amoureuse et promotrice des arts, et qui a eu l'audace de révéler les plus grands talents de l'art moderne. Alors, Marianne Lemorvan, je vous laisse la parole.
Merci.
Merci, Françoise Job.
Merci beaucoup. C'est vrai que Françoise Job avait réalisé un travail préliminaire qui déterminait déjà très bien les axes d'une défense de Berthe Weil et qui faisait aboutir au constat d'un oubli palpable, alors qu'elle avait eu une importance dans l'avènement de l'art moderne qui était absolument indiscutable. Le constat de l'injustice m'a animée assez rapidement et m'a engagée dans ces recherches faramineuses, parce qu'il faut le dire, la difficulté de travailler sur une personnalité oubliée, c'est que parfois il y a des fantômes bien cachés dans les placards. Avec Berthe Weil, j'ai eu la chance de travailler sur une personnalité qui n'avait que des qualités à ajouter à son crédit. Plus je cherche, plus je découvre une personnalité attachante, compétente, déterminée et qui s'est entêtée à défendre avec une grande conviction une intuition qu'elle avait d'un changement pictural majeur. Elle parlait même déjà de révolution. Et elle a su percevoir dans des artistes totalement débutants et inconnus un potentiel magistral qu'elle a toute sa vie défendu. Donc Françoise Job a très bien commencé à décrire le parcours de Berthe Weil. Berthe Weil est née en 1865, le 20 novembre, dans une famille nombreuse. Ils étaient 5 enfants. Elle était la cinquième et l'aînée de 2 filles, dans une famille très modeste. Sa mère était couturière en atelier, mais elle n'a plus exercé après leur mariage. Et son père, Salomon Weil, était chiffonnier. Donc les moyens de la famille étaient très très restreints. Ils étaient plutôt éloignés du domaine culturel, à ceci près que la mère de Berthe Weil, Jenny Lévy, avait une passion dévorante pour le théâtre et passait ses après-midi à la Comédie française. La rigueur des conditions en atelier de couture était telle que le couple était quand même assez inquiet pour la santé de Berthe Weil, qui, jeune, était assez malingre. Donc ils ont fait le choix de la placer chez un cousin éloigné de la famille, Salvatore Meyer, qui avait une boutique au 5 rue Lafitte qu'on appelait la rue des tableaux. C'était vraiment le coin névralgique de tout Paris où acheter de l'art. Voilà. Donc Salvatore Meyer est un mentor pour Berthe Weil. C'est auprès de lui qu'elle va aiguiser son œil. Elle va devenir spécialiste notamment des gravures du XVIIIe siècle. Elle va découvrir les caricaturistes de la période et quelques noms comme Valoton, qui seront les premiers noms qu'elle exposera elle-même dans sa propre galerie. Il y aura une étape décisive, c'est la mort de ce mentor en 1897, qui va l'inciter à prendre son indépendance. Elle va d'abord s'installer avec Marcelin, l'un de ses frères, dans une toute petite boutique qu'elle trouve aussitôt 25 rue Victor Massé, donc dans le bas Montmartre, toujours dans le 9e.
Dans laquelle maintenant, et sur laquelle est imposée une plaque commémorative grâce à votre action.
Oui, donc elle a déjà 32 ans quand elle s'associe avec Marcelin. Ils travaillent ensemble quelques mois, on est en 1900. C'est l'exposition universelle et Picasso vient pour la première fois à Paris parce que l'une de ses œuvres a été retenue pour représenter le pavillon espagnol au Grand Palais qui vient d'être fraîchement inauguré. Si bien qu'il est installé à Montmartre où un agent qui s'appelle Pedro Magnac, qui est un riche industriel, s'occupe de placer ses œuvres et ceux de toute la colonie d'artistes de Montmartre auprès des marchands parisiens.
Il représentait les artistes espagnols.
C'est ça.
Il était agent de ces artistes.
Voilà, il va présenter
et
le travail.
Pour Picasso.
Absolument. Et décisif d'ailleurs dans sa carrière. Et donc il va présenter le travail de Picasso à Bert Veil, qui va aussitôt trouver ça absolument formidable. Et ce sera la première à vendre les œuvres de Picasso à Paris. Et elle va vendre près de 30 toiles entre 1900 et 1901. Donc elle est un gros pourvoyeur de.
Et c'était la période rouge.
Alors c'est pas encore bleu, mais ça vient. Bert Veil va faire deux expositions de la période bleue. Les deux n'auront absolument aucune vente. Et ça, c'est assez déterminant dans la carrière de Bert Veil, c'est qu'elle voit le potentiel et le talent chez les artistes quand personne ne s'y intéresse, et elle ne va jamais abandonner, elle va continuer de les présenter même s'ils ne se vendent pas. Ce qui financièrement et commercialement est très périlleux, parce qu'elle elle vendait vraiment très peu, donc c'était très compliqué au niveau de
ses
finances.
C'était une femme qui avait un caractère très
elle était
bien
déterminée. Voilà, c'est ça.
Elle était toute petite de taille.
Voilà, 1m50, très myope, donc avec d'énormes loupes. D'abord des lorgnons, puis ensuite des lunettes. Et surtout un humour corrosif et un franc-parler qui devait décontenancer dans le milieu très feutré de l'art de la période. Puisque
familial.
Absolument aussi. Il était de bon ton d'être flatteur pour les acheteurs. Bert Veil pouvait autant renvoyer un acheteur qu'un artiste s'il ne lui plaisait pas.
Elle était vraiment en rupture avec son temps, aussi bien sur le plan social. Vous parliez, François Job, d'un milieu bourgeois qui n'acceptait pas celui de la bohème, des artistes. Et elle était aussi, c'était une féministe, c'est ce qui vous a motivé aussi dans vos recherches. C'était la première femme à affirmer ses goûts, à essayer de faire partager ses passions et ses découvertes.
Alors dans le milieu de l'art, c'est une pionnière incontournable. Bert Veil est la première femme à s'engager dans le commerce de l'art contemporain en 1901. Il y avait eu deux autres femmes au 19e siècle, mais qui se penchaient sur une peinture plus académique. Et il faut attendre presque 25 ans avant qu'une autre femme devienne galeriste, directrice de galerie de manière pérenne. Donc en 1901, c'est vraiment très audacieux. D'ailleurs, sa galerie s'appelle la galerie B. Veil, avec une abréviation de son prénom. C'est peut-être pas un hasard. Il y a quelque chose dans cette discrétion qui a certainement une relation avec la misogynie de la période.
Certainement, oui.
Donc, s'installe.
Elle était très courageuse.
Absolument, ça, c'est indéniable. Oui. Elle s'installe à son compte en 1901, le 1er décembre, en s'associant avec Pedro Magnac, puisque après quelques mois de collaboration avec son frère, il se trouve qu'ils ont des divergences sur la gestion de la galerie et ils prennent chacun une voie différente. Elle conserve l'adresse du 25 rue Victor Massé, et c'est Pedro Magnac, l'industriel espagnol, qui sera l'artisan de l'indépendance de Bert Veil, puisqu'il va encourager son goût pour la peinture contemporaine. Donc, dès la première exposition, Bert Veil expose Mayol. Elle va très rapidement exposer Matisse. À chaque fois, elle sera la première marchande des artistes, parce qu'elle sera la seule, en fait, à oser.
Elle organisera leur première exposition.
Voilà. Souvent dans des expositions.
À l'époque où ils étaient inconnus et incompris.
Oui, et puis l'exposition de Matisse, il est tellement débutant qu'ils sont obligés d'exposer des œuvres qui ont 20 ans parce qu'il n'y a pas assez d'œuvres contemporaines pour constituer une exposition entière. Donc c'est vraiment un jalon essentiel dans la carrière des artistes parce qu'elle a la première étape dans le marché de l'art pour des débutants qui n'ont absolument aucune cote et aucun nom et qui ne sont représentés nulle part ailleurs. Bert Veil sera très tôt identifié comme l'adresse où l'on découvre de la jeune peinture.
Elle n'était pas découragée par le fait de ne pas vendre.
A priori non, parce
comme
qu'elle
la plupart des autres marchands, comme Vollard, qui au bout Vollard de deux ou trois essais s'arrêtait. Elle allait jusqu'au bout.
Vollard s'est arrêté dans les années 10, Bert Veil a fermé en 40. Effectivement, la carrière et l'entêtement n'est pas tout à fait le même. Bert Veil est la première marchande de Picasso à Paris. Elle vend Matisse très tôt. Elle vend l'œuvre de Toulouse-Lautrec, peinte, qui est moins appréciée que sa carrière d'affichiste au tout début du XXe siècle. Elle est la première de Matisse. Elle expose les fauves avant même le salon d'automne de 1905. Elle expose les cubistes très tôt. Dès la phase cézannienne, elle va faire des expositions majeures dans le cubisme, dont la seule exposition du Mexicain Diego Rivera à Paris en 1914, la première exposition d'Alfred Rett, l'exposition personnelle en 1914 également. Elle va exposer Fernand Léger, Braque, elle va également être la seule à exposer Modigliani du vivant de l'artiste pour une exposition personnelle qui a fait date et sensation, puisque le soir du vernissage, elle avait invité tout le gratin parisien et manque de chance, sa galerie faisait face à un commissariat de police. Et une troupe commence à s'amasser devant la galerie. On voit en fait, depuis l'extérieur, à travers la vitrine, que 4 toiles représentent des nus féminins. Sur 32 œuvres, 4 toiles. Et le commissaire, alerté par la foule, se demande ce qui se passe et jette un œil. Et il envoie une escouade d'agents saisir les œuvres, puisqu'il considère qu'elles sont indécentes. Berthe Veil ne se démonte pas. Elle suit les agents qui ont déjà embarqué les toiles sous les bras, donc les 4 toiles litigieuses. Et elle tient tête au commissaire. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qu'ils ont donc ces toiles ? Qu'est-ce qu'elles ont donc ces toiles ? Et le commissaire lui répond, c'est nu. Ils ont des poils. Voilà. Ça a fait un tel scandale que l'exposition a été censurée dès le soir du vernissage. Donc, elle a été contrainte de décrocher les 4 nus sur 32 œuvres. C'est quand même dommage. Si bien qu'aucune œuvre n'a été vendue lors de cette exposition. Ce qui est vraiment tragique puisque Modigliani a eu une mort violente de 2 ans plus tard dans une misère crasse. Si cette exposition avait eu un meilleur succès, ça aurait été vraiment décisif dans sa carrière.
Et pourtant, elle achetait des œuvres.
Oui, elle en a acheté 5 là, lors de cette exposition pour compenser la mévente. C'est pour vous dire combien elle avait un grand cœur, hein, parce qu'elle n'avait pas un sou, mais elle était prête à compenser le désastre financier pour l'artiste.
Et elle s'est constituée une collection extraordinaire qui...
Elle revendait au fur et à mesure quand elle avait des soucis financiers. Mais l'une des œuvres censurées en 1917, lors de cette exposition, est passée en vente en 2000... Alors attendez, en fin d'année dernière, 2015, et elle a atteint le chiffre record de 170 millions de dollars, alors qu'elle avait été invendue à l'époque. C'est quand même incroyable comme histoire. Si ça serait truculent et savoureux si c'était pas aussi tragique, mais en réalité, c'est vrai que ça a été absolument terrible pour l'artiste et pour elle.
C'est pour ça qu'elle mérite vraiment un hommage en tant que pionnière des pionniers de l'avant-garde. Alors, nous allons marquer une première pause. Vous avez choisi Erik Satie, qu'elle a personnellement connu.
Oui, tout à fait. D'abord, ils étaient voisins. Ils habitaient tous les deux à Montmartre. Et puis, Berthe Veil a été un grand soutien pour les femmes artistes. Et elle était une des rares à promouvoir le talent des femmes peintres en tant qu'artiste accomplie, ce qui était déjà très revendicatif pour l'époque. Et je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais Satie a passé une nuit avec Valadon et au matin, il l'a demandé en mariage. Et elle a refusé. Mais il était fou amoureux d'elle pendant des années. Voilà pour l'histoire. J'ai choisi une version...
Elle a défendu l'œuvre de Valadon.
Oui, avec Témérité. Et après Utrillo, mais en distinguant bien les deux artistes. Ce qui est intéressant, puisque de nos jours, toutes les expositions Valadon sont systématiquement mises en regard avec l'œuvre de Utrillo. À l'époque, elle était exposée seule chez Berthe Veil. Donc j'ai choisi la version de Pascal Roger, qui est un pianiste très singulier, qui a une approche vraiment particulière. Une fois qu'on a entendu sa version de Satie, on ne peut plus en écouter d'autres.
Marianne Lemorvan, nous allons poursuivre donc le parcours de Berthe Veil. Là, nous nous sommes arrêtés au début du siècle, en quelque
Voilà, c'est
sorte.
ça.
Mais elle a traversé la guerre de 14, elle a traversé la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a arrêté sa carrière en 1940.
Voilà.
Seulement, elle a décidé de fermer sa galerie, mais elle a eu une vie très, très riche, dont vous allez nous parler à la fois de galériste, et ce terme, m'avez-vous dit, a été employé pour ceux, pour la première fois, qui défendait l'art émergent, on dirait de nos jours, alors dans la continuité des femmes mécènes qui ouvraient des salons et qui faisaient connaître les talents.
Voilà.
Mais elle a été la première à concilier à la fois la promotion des artistes émergents et en même temps à l'introduire, démocratiser en quelque sorte la connaissance qu'elle cherchait à faire partager. En les exposant et en les vendant.
C'est ça, Berthe Weil syncrétise deux éléments très importants de la période. Le fait d'avoir adopté cet intitulé de galerie qui est très nouveau, puisqu'il apparaît dans le bottin du commerce en 1899. Donc c'est vraiment très récent quand elle ouvre en 1901. Il y en a une dizaine à peine. Et ça dénote une volonté de s'engager dans une vraie modernité et de correspondre à un nouvel élan qui correspond effectivement à la révolution moderne. Et un deuxième élément très important qu'il ne faut pas négliger, c'est que Berthe Weil va faire de sa galerie un objet politique. On accorde aux femmes une place de mécène au XIXe siècle, avec des salons, des réunions ou une manière de soutenir les artistes qui est dérivée du mécénat juste par la question d'argent et de dons. Berthe Weil va s'emparer du marché de l'art en s'affirmant en tant que femme seule, ce qui est absolument inédit et forcément assez compliqué pour
Et
la
sans le
période.
soutien d'une fortune personnelle.
Alors, il n'y a pas de mari pour la soutenir. Elle refuse de se marier pour garder l'autonomie de son commerce. Il faut aussi se rappeler de l'état du droit pour les femmes à l'époque. Hein. On ne peut pas toucher de salaire sans l'autorisation de son mari. Votre mari a le droit de lire votre correspondance. On n'a pas le droit d'avoir ses propres papiers d'identité sans l'autorisation de son époux. Donc, pour garder son autonomie et garder sa galerie, Berthe Weil va renoncer à l'hypothèse du mariage et va refuser toutes les propositions de mariage qui lui sont faites. Si bien qu'elle va rester vieille fille,
Elle
entre
a
guillemets,
ouvert
toute
sa
sa vie.
galerie avec sa dot, d'ailleurs,
Voilà, c'est ça. Elle va
qui n'était
réussir à
pas
négocier.
considérable.
Non, mais elle va réussir à négocier l'obtention de sa dot de la part de sa mère pour renflouer les caisses de sa galerie dans les premières années. Donc, effectivement, de la part de la famille, c'est assez compliqué à accepter parce que c'est tellement d'avant-garde que ce sont des choix qui sont très très audacieux et qui sont difficiles à comprendre. Si bien que Berthe Weil va pas vraiment recevoir de soutien de la part de ses parents, elle aura plus tard un peu d'aide de l'une de ses belles-sœurs qui s'appelait Berthe Weil aussi. Elle s'appelait Berthe, elle avait épousé son frère, donc elle avait le même nom, qui va partager sa pension de veuve de guerre avec elle dans les moments difficiles. Berthe Weil, elle est dans une situation financière précaire durant toute sa carrière. Elle a beaucoup de mal à vendre les œuvres parce qu'au début personne ne s'y intéresse. Et puis quand elle vend, elle a tellement peu de trésorerie qu'elle revend vite et elle le reconnaît, elle a des difficultés de gestion, elle dépense aussi vite qu'elle réussit à acheter. Donc elle est dans une perpétuelle frénésie pour devoir vendre rapidement pour pouvoir se renflouer, ce qui fait qu'elle n'a pas le temps de faire grimper les cotes comme le font ses concurrents. Faut aussi.
D'ailleurs, elle s'y oppose,
Oui,
ça ne fait
c'est
pas
ça.
partie. Elle a une véritable déontologie.
Exactement. Alors, c'est assez singulier pour la période, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour qu'une galerie soit rentable. Et il y a un système très hiérarchisé de galeries à cette période, et elle apparaît comme sorcière, c'est-à-dire qu'elle découvre, elle vient défricher, et elle arrive à pointer les artistes qui ont le plus gros potentiel. Et dès lors, des galeries qui ont le plus gros moyens s'emparent de l'artiste en proposant des cotes qu'elle n'est plus en mesure de proposer, et en proposant des contrats d'exclusivité aux artistes, ce qu'elle fustige. Donc,
C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour
c'est
Picasso,
ça.
qui lui en a été reconnaissant jusqu'à la fin de sa vie.
Ben oui, alors Berthe Weil et Picasso, c'est une belle histoire parce que Picasso est un artiste quand même assez terrible et complexe. Berthe Weil va entretenir une relation avec lui de plus de 40 ans. avec des archives qui sont conservées au musée Picasso, qui démontrent la qualité de leur relation. D'ailleurs, Berthe Veil, va, en 1921, va fêter sa 100e exposition et elle va organiser une petite revue des peintres sous forme de guignol avec des marionnettes à son effigie et à celle de ses artistes. Et elle va rebaptiser les personnages et Picasso, elle va l'appeler Osapic, hein, qui fait une anagramme cubiste tout à fait délicieuse. Et donc, elle fait le propos de cette pièce de théâtre, c'est justement le problème du trucage des côtes et des problématiques de boursicotage qui nuisent aux artistes. Donc Berthe Veil, elle sera toujours placée du côté des artistes. C'est en cela qu'elle va rénover le statut de mécène et qu'elle sera une néo-marchande très singulière dans l'histoire contemporaine. Parce que les autres marchands vont vendre des artistes de la génération précédente, Vollard notamment va travailler sur les impressionnistes, les néo-impressionnistes, les symbolistes, ou des artistes comme Cézanne qui ont 20 ans de plus que les artistes que Berthe Veil fait exposer. Et Berthe Veil n'expose que du contemporain. Donc là, dans une logique commerciale, c'est évidemment très périlleux. En 1914, il y a une vente importante qui s'appelle la vente de la peau de l'ours. C'est une association qui réunissait quelques amateurs qui va décider de vendre la collection aux enchères. Et c'est la première fois que les artistes atteignent des cotes importantes. Donc on considère que l'art moderne devient rentable à partir de 1914. Ça veut quand même dire que les 14 années d'avant, Berthe Veil s'est acharnée à vendre des artistes que personne ne reconnaissait. Donc Berthe Veil, elle est assez médusante pour le palmarès étourdissant d'artistes qu'elle a fait débuter. En ce sens, elle est le premier vecteur dans la carrière de ces artistes. Pour cela, ces artistes vont lui être reconnaissants toute sa vie, toute leur vie. Picasso disait « le marchand, voilà l'ennemi ». Il pensait ça de tous, mais certainement pas de Berthe Veil. Effectivement,
d'ailleurs,
elle avait,
il l'a aidée quand elle était en difficulté.
J'allais y venir.
Voilà.
Donc effectivement, Berthe Veil réussit à résister à la Première Guerre mondiale. Elle résiste à la crise de 1929. Donc elle fait quand même partie de ceux qui ont résisté à l'écrémage drastique du marché de l'art de cette période. Et elle arrive jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale où elle s'intéresse à la avant-garde abstraite. Ce qui est là aussi très intéressant. Parce que
très novateur et à contre-courant.
Complètement. En 1939, elle fait une grande exposition Freundlich, Beotti, Gonzalez. Elle s'intéresse à la sculpture, ce qui est aussi un médium qui est assez peu estimé à cette période-là. Et du coup, elle va vraiment s'orienter vers des artistes. Ben, Freundlich, c'est iconique puisque une de ses œuvres était utilisée comme couverture du catalogue de l'exposition d'art dégénéré 2 ans avant à Munich. Donc c'est vraiment politique de décider de s'orienter vers ces artistes. J'ai trace d'une exposition jusqu'en 1940 et ensuite je ne sais pas exactement quelles ont été les conditions de sa survie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il semblerait qu'elle ait refusé de quitter Paris, ça semble assez clair. On a une visibilité sur sa collection personnelle qui est constituée d'œuvres dédicacées dont on a un inventaire avant la guerre. Après la guerre, il n'y a plus de collection. Donc, son stock de la galerie est spolié en 1939, mais il n'y a pas de dossier qui a été ouvert au niveau des archives du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est très compliqué de savoir.
C'est pour ça
exactement
qu'une partie de vos recherches est de façon bénévole est consacrée au problème des spoliations.
Tout à fait. En fait, l'enjeu d'avoir travaillé sur une galerie complètement oubliée, ça a été d'abord de reconstituer le fonds, puisqu'il n'y avait pas de documentation disponible. Ça, c'est un élément qui contribue très largement au fait qu'on vous oublie quand on n'a pas d'informations accessibles pour travailler sur votre sujet. Donc, il a fallu reconstituer les archives. Et quand on n'avait aucun fonds de départ, ça veut dire recommencer du tout début. Françoise Job avec un peu de documentation, mais quand même très restreinte. Les collections des bibliothèques parisiennes spécialisées en art étaient aussi vraiment lacunaires. Donc, j'ai travaillé en surveillant le marché des libraires et des vieux papiers à travers le monde et en rachetant en fait, un à un, tous les catalogues, jusqu'à reconstituer l'intégralité de la programmation.
Et vous avez constitué un fonds d'archives qui s'appelle
les archives Berthe Veil, très exotique.
Berthe Veil, voilà. Et avec un site internet permettant à tous les chercheurs de pouvoir avoir accès à vos données. Vous pouvez le donner, le site.
Bien sûr, c'est www.berthveil.fr. Et puis, il existe en anglais.com. Pour contrer l'oubli, il faut rendre les informations accessibles. Donc, j'ouvre gratuitement mes archives à tous ceux qui souhaitent faire des démarches sur le sujet.
Alors, nous allons marquer une seconde pause, très rapidement également, qui est une chanson d'hommage à Bert Veil. Je vous laisse la présenter.
Voilà, c'est une chanson d'Urban qui date de 1930, qui s'appelle Le Petit Objet. Et en fait, à la galerie, il y a eu les 30 ans de la galerie en 1931. Et tous les artistes ont repris cette chanson en changeant les paroles. Donc, je vous laisse découvrir ça.
Pour votre fête, mademoiselle Rose, je voulais vous apporter des fleurs, mais j'ai pas pu trouver des roses qu'est votre parfum et votre fraîcheur. Alors j'ai marchandé une broche, une montre en or et d'autres bijoux. Seulement en fouillant dans mes poches, je n'ai trouvé que 28 sous. Mais vous ne perdrez rien, j'ai trouvé le moyen de vous offrir quelque chose de bien. Oh, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Oh, c'est quelque chose qui vous fera plaisir.
Alors, Marianne Le Morvan, le temps passe trop vite,
n'est-ce pas?
Et il faut que vous nous parliez maintenant des projets, de ce qui est en cours pour mieux faire connaître et diffuser l'action extraordinaire de cette femme extraordinaire qui était Bert Veil.
Le plus gros du travail, évidemment, ça a été de reconstituer les archives. Mais maintenant que le fonds est disponible, je m'applique à faire revivre le patrimoine de Bert Veil. La première étape, ça a été la publication de sa première biographie en 2011, qui est parue chez l'Écarlate, qui a été vraiment un jalon permettant d'attester de la qualité de ses découvertes et de proposer une première reconstitution de sa programmation.
Qui s'appelait Pendant l'œil et qu'on peut encore...
Ça, c'est les mémoires.
Ça, c'est autre chose.
Non, ça, c'était la première biographie. En 2013, nous avons fait poser une plaque commémorative à la première adresse de la Galerie de Bert Veil, au 25 rue Victor Massé, en partenariat avec la ville de Paris, le 13 mars. Le jour de la journée des droits des femmes, c'était très intéressant comme symbole. Et là, en ce moment, je prépare une grande exposition qui va avoir lieu à New York en 2019 et qui rassemble toutes les œuvres qui lui sont initialement passées entre les mains. Et j'ai la chance aussi de collaborer avec deux réalisatrices pour la préparation d'un grand documentaire pour la télévision. Donc, on est à une étape décisive dans sa redécouverte, puisqu'après beaucoup d'efforts, elle va bientôt retrouver sa place au rang des très grands marchands influents du début du 20e. Donc si personne ne se souvient de son nom pour le moment, dans 5 ans, j'espère qu'elle sera plus jamais oubliée dans les manuels d'histoire de l'art.
Et alors, il faut dire que ce sont les universités américaines qui été les premières à réagir et à vous soutenir.
Oui, j'ai vraiment essayé de valoriser ce patrimoine français auprès de Paris et auprès des institutions françaises. Ça a été assez compliqué. Et finalement, c'est les Américains, la Gray Art Gallery, qui est la première institution à avoir montré de l'art moderne aux États-Unis, qui est venue me chercher et qui a tout de suite été extrêmement enthousiaste. Donc j'ai beaucoup de chance de travailler sur un sujet aussi passionnant et contagieux, puisque toutes les personnes qui découvrent son patrimoine sont aussi enjouées que moi à vouloir faire connaître son histoire incroyable.
Donc, pour résumer, il va y avoir une exposition à New York qui sera suivie probablement dans un grand musée français.
Tout à fait.
Un film qui va être tourné. Vous allez éditer ses mémoires.
Oui, ça va être bientôt prêt.
Et vous continuez parallèlement votre travail de chercheuse en éditant des catalogues raisonnés d'artistes qu'elle a promus.
Oui, je suis tout à fait monomaniaque, je travaille toujours beaucoup sur Bert Veil, mais j'ai la chance du coup de pouvoir travailler sur tous les artistes qu'elle a exposés, et elle en a exposé plus de 300. Donc ça ouvre un champ de perspective qui va m'occuper plus que ma carrière me le permettra.
Et alors, elle a eu aussi une action dont il faut absolument parler, c'est elle parallèlement à sa carrière de galériste, elle a été éditeur.
Oui, ce qui est un pan méconnu. On attribue souvent l'oubli de Bert Veil au fait qu'elle n'a pas su exploiter cette partie-là, contrairement à ses concurrents. Et il se révèle que c'était une éditrice très endurante et vraiment très intéressante. Mais c'est si dense que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler cette fois.
Je crois que ça fera l'objet d'une seconde émission.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Marianne Le Morvan.
Merci
Françoise Job. Et quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours en attendant de reparler, je l'espère, parce qu'on aura l'occasion de le faire, je pense, très prochainement, puisque vous allez soutenir votre thèse de doctorat à la
cette
fin
année.
De l'année.
Oui.
donc sur cette extraordinaire figure féminine de l'art qui était Berthe Veil.
Merci
Marianne Lemorvan, merci François Job encore une fois, merci pour la Avner Azoulay pour la réalisation technique de cette émission, et je vous dis à bientôt, à dans 15 jours, bonsoir.
C'était De l'art et de la vie, une émission de Francine Shapiro proposée par la Galerie Saphir et ses trois espaces d'exposition à Paris 69 rue du Temple dans le 3e arrondissement et 69 avenue de Villiers dans le 17e arrondissement. En Bretagne, à Dinard également. Pour en savoir plus, appelez au 01 44 40 26 84 ou écrivez à galerie-saphir@wanadoo.fr.